Numérique, une évolution, mais pour qui ?
Alors moi je m'appelle Mathieu Amièche, je fais partie d'Écran Total en Occitanie et dans le réseau national. Et voilà, dans la vie je fais aussi de l'édition. Je fais partie des éditions La Lenteur.
Le progrès technique a pendant longtemps semblé porteur de justice sociale et de liberté. Nous pensons à Écran Total que c'est une illusion et qu'au XXe siècle, on observe carrément un divorce. Les outils de la technologie ont facilité le démontage des droits sociaux et des solidarités. Collectif Écran Total.
Pour revenir juste un petit peu en arrière, je parlais donc de cette rencontre entre le groupe Faut pas pucer et des assistantes sociales du 93. Donc c'est sur la base de cette rencontre qu'on a décidé d'organiser la première rencontre d'Écran Total. C'était en 2013, effectivement, à Montreuil, avec aussi des enseignants. On connaissait déjà une poignée d'enseignants rétifs à l'informatisation des cours et du travail administratif. Et puis il y avait aussi, à ce moment-là, un appel qui avait été lancé dans les métiers du livre, qui s'appelait l'appel des 451, des éditeurs, des graphistes, des libraires, qui s'insurgeaient contre la place prise de plus en plus par l'informatique dans les métiers de l'écriture et de la publication, et qui appelait aussi à s'organiser face à la puissance croissante d'Amazon.
Donc, Écran Total est un collectif réunissant des personnes de divers horizons professionnels et géographiques, confrontées à la rationalisation et à la numérisation du travail, à l'inflation des protocoles et des normes qu'exige la société industrielle. Elles éprouvent un même sentiment de dépossession, n'acceptant plus qu'on leur vole la parole, ni qu'on affadisse ainsi le sens et la finalité de leurs activités, elles ont décidé de témoigner et de résister ensemble. Donc Écran Total, c'est un collectif, je le précise maintenant, où les infrastructures numériques ou Internet ne jouent aucun rôle dans notre façon de nous organiser. On se voit 3 fois par an, on échange et on communique par courrier postal. Et on essaie autant que possible, dans nos vies, de ne pas déléguer nos activités et notre autonomie politique à l'informatique.
Sophie, qu'on vient d'entendre, représentait le collectif Écran Total début août 2023 sur le Larzac lors des Résistantes, un rassemblement des luttes locales et globales. Lieu hautement symbolique, les terres du Larzac ont fait l'objet de batailles idéologiques mais aussi très concrètes. Et si la lutte consiste souvent en une réappropriation des moyens de production ou de subsistance, le numérique, lui, est un sujet à part. Peut-on se le réapproprier et pourquoi faire ? On rencontre donc Sophie et Mathieu du collectif Écran Total en août 2023 sur le Larzac.
Là, il y a eu donc plusieurs échanges avec plusieurs collectifs qui abordent la question du numérique par un biais spécifique chaque fois. Et tu as parlé à un moment, enfin toi ou ta collègue, vous avez parlé d'une filiation un peu par rapport à la télévision, ce que pouvait avoir commencé comme travail la télévision et que le numérique viendrait un peu parachever. Est-ce que tu peux développer ça, faire un historique de comment on en est arrivé là ?
Écoute, à l'improviste, oui, je peux te dire quelques éléments qui me semblent importants, c'est-à-dire à la fois sur les relations. La télé, on sait que c'est ce qui est venu déjà. S'insérer dans les relations familiales, dans les relations de voisinage, c'est-à-dire que ça a changé la sociabilité, ça a changé le visage de la sociabilité dans l'Europe d'après-guerre, dans les États-Unis déjà presque avant-guerre. Bon, toute la critique qui a été faite par un certain nombre de gens de manière très juste dans les années 60, c'est-à-dire le fait qu'on se tournait vers des images qui étaient programmées ailleurs, et qui tenait un discours en quelque sorte autoritaire, puisqu'on ne peut pas répondre, et que, en tout cas, on a un point de vue qui vient coloniser nos vies et faire que, au lieu de déjà de s'entretenir avec les gens autour de nous, on se tourne vers l'écran, on passe les soirées devant l'écran. Et donc, même si, bien sûr, la télévision, il peut y avoir des reportages plus intéressants que d'autres, il peut y avoir des informations justes, il peut y avoir une sensibilisation sur des questions, une ouverture sur le monde et sur des choses qui se passent ailleurs, qui ne sont pas négligeables. Le rôle, ce qui domine quand même, c'est un déracinement de la vie, de la vie qu'on vit réellement, quoi, de la vie là où on est. Et une ringardisation, du coup, d'ailleurs, des endroits. Ou notamment quand on ne vit pas dans une ville, dans une grande capitale, c'est une ringardisation des endroits qui ne sont pas très densément peuplés, où les gens s'en vont. parce que ce qui se passe à la télé est plus brillant, plus intéressant, et du coup joue un rôle d'ailleurs en fait, ensuite dans le fait d'amplifier par exemple l'exode rural, de faire que la lumière c'est la lumière des villes qui brillent, c'est les villes qui attirent, c'est les villes où semble régner la liberté, la culture, et on n'est plus capable de la voir là où on est.
À quoi bon marcher dans les rues, faire la causette à d'autres gens, rencontrer des tas d'inconnus ou lire des livres intelligents? À quoi bon claquer des fortunes, avoir des beaux films au cinoche, dans moins d'un an pour pas une thune, t'auras les mêmes mal à tes loches. Y'en a qui font le tour de la planète, qui s'en vont voir du pays. Nous on voyage à coups de zapette, on a le bout du monde au bout du lit. Y'en a qui sont de fin baiseurs, dès qu'ils se régalent le pari puce. Nous le samedi soir sans décodeur, on a le porno sur Canal Plus. Car c'est nous les lobotomisés barjots de la télé, accro de la lucarne à blaireau qui ratatine le cerveau. Elle nous dévore les cellules, nous décervelle et nous en... Elle nous vend de la merde à gogo, c'est la lucarne à blaireau. Y en a pour savoir les nouvelles, ils vont s'acheter des journaux. Alors qu'il y a Roger Jiquel, PBDA et Claire Chazal qui nous font voir de belles images et tous les soirs nous bourrent le mou en nous montrant de beaux carnages qui se passent loin de chez nous. Et puis grâce à Dorothée F1 qui leur matraque l'encéphale, plus besoin d'emmener les gamins jouer au jardin municipal. Génération télécommande, repu de pub et de McDo, ces petits cons en redemandent, c'est la relève des blaireaux. Les futurs lobotomisés barjots de la télé, accro de la lucarne à blaireau qui ratatine le cerveau. Elle leur dévore les cellules, les décervelles et les ans. Elle leur vend de la merde à gogo, c'est la lucarne à blaireau.
Écran Total est né à la suite d'une lutte contre le puçage des animaux. Faut pas pucer. Le collectif s'est opposé au Linky, à l'électrification, à la numérisation de la santé, de l'école, avec l'appel de Beauchastel, au pass sanitaire plus récemment. Et cette année, nous avons lancé une campagne contre l'espace de santé numérique et le projet de portefeuille d'identité numérique qui est dans les tiroirs de l'Union européenne. Et récemment, on s'est de plus en plus intéressé à l'impact du numérique sur les milieux naturels, car vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'on nous vend la dématérialisation des services publics, c'est-à-dire leur destruction au nom de la transition écologique. Donc, pour commencer, le numérique est une industrie particulièrement intensive qui repose sur l'extractivisme. Donc, le terme d'extractivisme, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est un terme forgé par Eduardo Goudinas, un penseur de l'écologie décoloniale. C'est un premier rappel important. Lutter contre le numérique, c'est lutter contre la colonisation et la prédation, l'accaparement des terres où vivent encore des humains qui tentent de se tenir en dehors du cosmos capitaliste. Donc aujourd'hui, il y a un double extractivisme. Le premier, donc, c'est celui lors de la fabrication, la production, qui est le plus polluant. Le deuxième, c'est celui lié aux usages. Donc d'un côté, l'extractivisme des métaux, et de l'autre, celui des données, avec les data centers, etc. Dans un ordinateur portable, on trouve 20 métaux. Dans un smartphone, c'est entre 40 et 60. Et plus on va vers la miniaturisation, plus c'est un concentré de métaux rares. Un autre exemple, pour produire un gramme d'or, il faut concasser et traiter au cyanure une tonne de roche.
Est-ce que si on revient sur l'écran, la télé, ça démocratise un truc aussi qui est le cinéma au départ, où les gens se déplacent ensemble dans un lieu pour voir une œuvre, soit culturelle, soit spectaculaire, etc. Est-ce que déjà pour toi, dans le cinéma, il y a l'embryon d'un truc un peu qui casse justement ces liens-là, ou est-ce que justement la télé individualise et atomise?
C'est plus ambigu, je dirais, le cinéma. Il y a sans doute des choses à dire sur le cinéma, mais je pense que c'est aussi un art qui rassemble. Il y a sans doute des choses à discuter sur les moyens techniques employés, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui rassemble. La télé, c'est quelque chose qui atomise. Et donc, avec l'Internet, aujourd'hui, on a ces choses-là qui se prolongent, c'est-à-dire véritablement une confiscation des relations sociales. On voit comment les gens dans les grandes villes sont plongés sur leur écran, ne se tournent pas, parfois sont capables de pas du tout se tourner vers les gens autour d'eux. Voilà, c'est un approfondissement. Il y a vraiment là une focalisation avec ces histoires d'écran qu'on peut embarquer avec soi. On a non seulement le monde qui vient à soi, chez soi, comme disait Günther Anders, et qui devient plus important que ce qui est autour de nous, mais on peut emporter ce monde partout où on va, dans le monde. Et donc là, voilà, ça génère une forme d'autisme quelque part, au sens large, un problème de communication, disons. Voilà, je me permets d'employer ce mot parce que on a un problème de communication qui apparaît entre les semblables, entre les humains. Et on a aussi une autre radicalisation de ce qui se passe avec la télé, c'est-à-dire le fait de remplacer les flux d'images qu'on a en nous. La télé avait déjà commencé à casser l'imaginaire autonome, disons, des cultures particulières, en imposant certains standards, certaines représentations, excuse-moi. Avec l'Internet, quand on entend parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, on est vraiment dans une situation où il y a des industriels qui prétendent entièrement diriger le flux d'images qui sont en nous. Et c'est préparé aujourd'hui par des étapes comme le fait qu'on voit bien que pour beaucoup de gens, quelque chose ne se produit que quand il est filmé. Pour plein de gens, quand ils veulent raconter quelque chose et partager l'émotion qu'ils ont eue face à tel événement, soit parce qu'il est horrible, soit parce qu'au contraire, c'est quelque chose qui les a touchés, qui leur semblait beau. En fait, ils vont pas avoir confiance dans leurs paroles pour le raconter, pour émouvoir l'autre, pour transmettre leurs sentiments, mais ils vont passer par l'image. L'image, parce que c'est ça l'absolu. Et on retrouve ça aujourd'hui avec le problème des témoignages sur les violences policières, etc. C'est-à-dire la parole. On est dans un monde où la parole ne fait pas foi, et il n'y a que l'image qui peut faire foi. C'est-à-dire si on dit « un tel a frappé, monsieur a été frappé dans sa boutique par des policiers déchaînés », s'il le raconte, ça n'a pas le même poids que on voit l'image de la chose. Ce qui, en un sens, peut sembler logique, mais en fait, c'est très très problématique, parce qu'il y a vraiment une disqualification de la parole humaine.
Je vais citer Anna Bednik, qui a été une des premières à nous faire connaître, à travailler sur l'extractivisme et le boom minier qui a lieu aujourd'hui. On s'apprête à extraire de la croûte terrestre plus de métaux en une génération que pendant toute l'histoire de l'humanité. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, il y a Célia Izoard qui parle de technologie extraterrestre qui est en train d'anéantir les derniers modes de vie terrestre. Et elle analyse l'industrie électronique, qui est l'autre mot moins imaginaire du numérique, donc l'industrie électronique, comme un programme extraterrestre qui sacrifie les terres, l'eau, la vie sociale, la liberté. Pourtant, alors que nous sommes en pleine catastrophe écologique, que les médias en parlent et qu'on nous parle de transition écologique, le numérique, c'est le secteur qui connaît la plus forte croissance aujourd'hui. Vous avez connu la 2G, vous connaîtrez bientôt la 6G. Et à chaque fois, ce sont de nouvelles infrastructures, de nouveaux usages et de nouveaux faux besoins. Il faut savoir que les flux vidéo représentent aujourd'hui 80% de l'augmentation du volume annuel des données. Et il y a une explosion de la consommation de vidéos en ligne. Pour ceux qui veulent approfondir, ils peuvent aller lire le rapport du Shift Project, qui s'appelle « L'insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Et vous trouverez des chiffres précis. La vidéo, c'est un quart du trafic, c'est la pornographie, le nouvel imaginaire numérique de la sexualité.
On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Même si on se connaît pas, on se dragouille dans des bars. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours seul au monde. On danse les uns avec les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire. On se détruit, on se désire. On danse les uns avec les autres. On court les uns après les autres. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. Toute la semaine on
on se dit qu'on s'aime, mais en vrai on s'aime soi-même. Et au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours seul au monde. Comme des michetos, on s'exhibe, on se montre, on se désinhibe. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est qu'une bande de Rémi. Et oui, t'es qu'un, tu sais qu'aucun. Et moi, t'as qu'un toqué. Vu qu'on est trop fauché, on se fait la guerre. Mais viens, on fait la paix.
Vous écoutez une émission autour du collectif Écran Total avec Mathieu et Sophie, rencontrés sur le Larzac lors des résistantes en août 2023.
Sur le numérique, est-ce que ça c'est pas sorti dans les échanges là sur le chapiteau, mais je crois qu'il y a un bouquin que vous proposez autour de l'idéologie du logiciel libre qui se propose d'avoir une alternative par rapport au logiciel propriétaire, au GAFAM, etc. Comment vous l'analysez, vous, avec un total, le logiciel libre qui serait, est-ce qu'on peut se réapproprier l'informatique ou est-ce que vraiment c'est mort et c'est à l'heure?
Alors nous, à Écran Total, on est des gens qui, de par notre philosophie générale, sommes toujours intéressés par les gens qui veulent mettre les mains dans le cambouis et comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que pour nous, notre critique de la technologie moderne, elle est beaucoup tournée vers le fait qu'on est constamment en train d'utiliser des choses qu'on ne comprend pas et les choses fonctionnent avec des mécanismes qui échappent aux gens du commun. Et donc il faut être ingénieur, etc., pour comprendre et encore vaguement un certain nombre de choses qui régulent nos vies, quoi, qui déterminent nos vies. Donc nous, on est toujours contents d'avoir des gens qui disent « moi, je sais programmer, je sais... » Après, par contre, si savoir programmer, c'est du coup penser qu'on va... si c'est pour prolonger le mouvement qui fait qu'on passe tous de plus en plus de temps devant les écrans, qu'on utilise de plus en plus Internet, eh bien, en fait, on y est beaucoup moins favorable. C'est-à-dire tout ce qui peut aller dans le sens d'une réappropriation, d'une maîtrise individuelle et si possible collective, ça nous intéresse. Mais faut pas que ce soit incompatible avec le fait de se rendre compte qu'on utilise déjà ces machines beaucoup trop. Et que donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le mouvement du logiciel libre participe d'une désescalade numérique, comme disait la copine tout à l'heure, dans la réunion publique, d'une baisse du temps qu'on perd à ça, qu'on prend pour ça, et qui nous empêche d'être en contact avec la nature, avec les autres, qui vient se poser en médiation en tout cas, une médiation qui nous semble assez lourde et assez problématique. Et donc, voilà, je ne sais pas si ma réponse te satisfait, c'est-à-dire... Pour nous, il peut y avoir des choses positives, il peut y avoir des choses qui permettent d'échapper... peut-être qu'il y a des hackers aujourd'hui qui pourraient rendre service par rapport à la monopolisation des données par les services publics en cours de privatisation, par les grandes boîtes, les GAFAM, etc. Il y a peut-être des choses possibles et qui peuvent être utiles à un mouvement de contestation du pouvoir industriel des GAFAM, mais on pense que ça devient... Voilà, qu'il faut que ce soit dans une perspective où on prenne, il y a une prise de conscience collective quand même, qu'il faut absolument que nos vies cessent d'être happées par ces médiations, par les écrans, par les applis, et par le temps qu'on passe tous, en fait, sur les machines, parce qu'on a l'impression que ça nous rend service, que ça nous fait aller plus vite, et qu'en fait, ça c'est juste en train de changer nos vies, de même que Bernard Charbonneau disait « on vous donne une bagnole et ça change la société ». On croit gagner en liberté, et effectivement, c'est parfois le cas sur un segment précis, délimité. Mais en fait, on a une société qui ensuite est organisée totalement différemment et ça pose problème. Là, c'est pareil, c'est exactement pareil avec l'Internet et avec le smartphone.
L'électrification du monde est allée crescendo et la consommation énergétique liée au numérique croît de façon exponentielle. Donc les chiffres d'avant le Covid, ça indique que la consommation d'électricité pour le seul système numérique, augmenter, doubler tous les 4 ans. Donc on peut imaginer qu'après le Covid, on est encore au-delà de ces chiffres. Donc c'est une consommation énergétique qui augmente de 9% par an, contre 1,5% pour les autres secteurs. Et le volume de données explose de 25%. Voilà, donc c'est un coût énergétique supérieur largement aujourd'hui à l'aviation, voilà, contre lesquels les écologistes se sont récemment mobilisés à Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, le code minier là, a été revu il y a des recherches qui sont menées en France, dans les sous-sols français, pour réouvrir des mines et avancer, construire ce que Macron appelle la souveraineté numérique. Donc, j'attire votre attention sur une lutte qui, je crois, est présente ici aux résistantes contre l'extension de SM Micro près de Grenoble. C'est une usine de puces, de semi-conducteurs pour les smartphones, les objets connectés, les voitures électriques, l'armement militaire. Et ce projet industriel vient de bénéficier de la plus grosse aide d'État avec les applaudissements des écolos locaux d'Europe Écologie Les Verts. Et si on en croit ce que racontent les camarades de STM Micro, d'ici un an ou deux, la consommation annuelle des usines de puces de semi-conducteurs équivaudra à 16 mégabassines de Sainte-Soline. Donc en 22 jours de fonctionnement normal de cette usine, on vide la mégabassine de Sainte-Soline. Donc voilà, le maire de Grenoble, qui a soutenu les opposants à Sainte-Soline, évidemment applaudit l'argent mis par l'État localement. Et à écran total, nous ne sommes pas dupes de ces fossoyeurs de l'écologie. Et on conteste cette propagande qui fait du numérique le cheval de Troie de la transition escrologique. Le numérique est tout sauf immatériel, tout sauf invisible. Et on pense qu'il faut mettre en déroute ces nouvelles routes de l'information et dénoncer ce techno-solutionnisme. Donc c'est une lutte politique. On tente tant bien que mal de politiser cette lutte. Et on se pose aussi tout un tas de questions, ce que fait le numérique au dialogue, au débat, à la démocratie, parce qu'on pense que ça consiste en une aggravation de ce que la télévision avait déjà fait. Est-ce que ça fait aussi à la liberté? Et là, avec la création du portefeuille d'identité numérique, dont il sera peut-être question ensuite, et les expériences de crédit social qui sont déjà en train d'être expérimentées en Europe. Donc nous, il nous semble que ce ne sont pas d'autres usages du numérique qui pourront enrayer ce processus. Un autre usage du numérique ne fera jamais que le renforcer, et c'est parce que nous possédons des smartphones que l'on peut mettre en place des dispositifs de contrôle et de coercition sociale inédits.
Comment vous voyez aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les désertions? Des gens qui sont ingénieurs qui sortent de grandes écoles et qui sont voués à servir soit l'économie actuelle ou l'État ou d'une façon ou d'une autre, et qui sortent du chemin, mais se servent quand même de leur savoir-faire pour faire autre chose.
C'est fondamental, on est certains à écran total avoir fait partie aussi plus anciennement d'un groupe qui s'appelait Oblomov, qui était un groupe un collectif de chercheurs ou d'apprentis-chercheurs critiques de la recherche scientifique, de son rôle dans la société, et qui appelait justement à ce mouvement de désertion dans les années 2000. À l'époque, ça n'avait pas eu un grand écho. Aujourd'hui, je suis complètement ravi de voir ces choses-là devenir plus évidentes, plus partagées, provoquer des formes d'émotions sociales, même si ça passe malheureusement par des grosses vidéos visionnées des millions de fois sur Internet. Et en tout cas, c'est essentiel. Après, c'est des chemins, c'est bien, il faut que ça se multiplie, il faut qu'il y ait une désertion d'un certain nombre de postes de pouvoir d'expertise, mais il faut aussi se préoccuper évidemment de ce qui se passe dans des milieux sociaux plus modestes, moins diplômés, et espérer que le mouvement de désertion du marché du travail il se passe aussi par le bas, et que ça puisse faire mouvement et se rejoindre, C'est-à-dire que aujourd'hui on sait qu'il y a une partie de la classe moyenne, de la classe diplômée, de la classe instruite, avec je mets plein de guillemets, les gens qui, en tout cas dans le savoir est valorisé et monnayé dans la société, qui ont le mérite de vouloir se détacher de leur emploi, de leur rôle social. C'est formidable, c'est essentiel. Après, il faut que ça rejoigne des aspirations aussi à déserter chez des gens pour qui c'est sans doute souvent beaucoup plus difficile matériellement. Et voir comment ça peut s'articuler, mais en tout cas se penser ensemble. Je ne sais pas si je prends l'exemple des usines dont on parlait tout à l'heure, l'usine de puces de Grenoble, l'usine de semi-conducteurs, les usines de nanotechnologie, etc. C'est tout aussi important d'avoir des gens qui sont capables d'être à la direction ou dans l'encadrement de ces usines et qui démissionnent avec fracas et qui font des articles dans les grands journaux. Mais c'est important aussi que ces usines aient du mal à trouver du personnel et qu'il y ait des mouvements, si possible, explicites, conscients, au sens conscient et visible dans la société, de désertion de ces emplois et de remise en cause de ces emplois à tous les étages de la société. Une société malheureusement toujours traversée par des clivages de classe extrêmement violents et où les démissions spectaculaires de quelques personnes, aussi importantes soient-elles, ne peuvent pas suffire. Mais c'est pas pour ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et il aurait fallu que ça se produise beaucoup plus tôt, dès les années 70, 80, etc. Donc c'est très bien.
le numérique est, nous semble-t-il, peu remis en question. Alors voilà, il incarne aussi un bien de consommation à obsolescence programmée. Donc voilà, le smartphone ne cesse de créer et de répondre à de faux besoins. Je vais citer, voilà, j'arrive à la fin de ma présentation, avec toujours les camarades de STM Micro. Force est de constater que dans un certain imaginaire écologiste militant, si la figure du grand agriculteur irrigant est associée au mal, celle du start-upper ou industriel développant des applis et autres gadgets inutiles ou nuisibles ne suscite presque pas de réprobation quand elle ne jouit pas d'une image positive. Donc voilà, nous on pense que si on veut continuer à critiquer l'aliénation, voilà, on doit remettre en question ce mode de vie qui s'est édifié et qui s'approfondit avec le numérique. Enfin, le numérique est le couronnement de, voilà, du sentiment de dépossession que nous dénonçons et contre lequel nous luttons à Écran Total. Pas plus tard voilà, qu'hier, ici aux Résistantes, je me suis rendue à un atelier « Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux ». Voilà, j'ai assisté à un discours de management et j'étais voilà, assez surprise de, voilà, de trouver ça ici. Voilà, en tout cas, on peut se poser la question de, voilà, d'utiliser des moyens qui aggravent gravement la crise écologique et nos milieux de vie, voilà, pour lutter contre ce même désastre écologique. Nous, on n'est pas là pour faire la morale. Ce n'est pas au nom d'une pureté qu'on refuse le smartphone. C'est parce qu'on pense que ces technologies sont contre nous et qu'elles se sont déjà retournées contre nous.
Si on passe pas par le numérique, si on passe par l'échange ou par la lecture, par exemple, comment vous dans ton métier d'éditeur aussi, ou même quand tu écris, comment tu penses à la réception d'un bouquin? Est-ce que c'est encore sacralisé? Est-ce que c'est bien que ce soit sacralisé un bouquin, ou est-ce que justement on pourrait le désacraliser, et comment pour que plus de gens se l'approprient?
Ben, je pense que nous on cherche justement à le désacraliser, à en faire quelque chose de voilà, qui circule. On fait aussi des brochures. Et on essaye d'avoir une transmission. De toute façon, on voit que les livres qui marchent, c'est les livres que les auteurs présentent de manière vivante, font vivre par des conférences débats, par une présence, une parole de proximité avec des gens qui se posent des questions, qui comprennent pas telle chose, qui n'ont pas la grille de lecture pour d'emblée saisir tel ou tel problème. Et voilà, donc nous on est pour une désacralisation et pour une réappropriation aussi de la lecture. On pense que c'est quelque chose qui s'est produit dans le mouvement ouvrier, qui a eu toute une vague, on peut dire, d'alphabétisation, d'apprentissage de la lecture, qui était fondamentale quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier. Parfois, aujourd'hui, je pense que c'est difficile de comprendre des pétitions qui étaient écrites par des prolétaires anglais, voilà, adressées au patron, adressées au pouvoir public, sur la durée du travail, sur l'usage des machines. Aujourd'hui, on n'imagine pas facilement des textes qui seraient aussi bien écrits par des gens du commun. Et voilà. Et puis, on a vu ça aussi en Espagne, dans le mouvement anarchiste, un mouvement d'auto-éducation, d'auto-formation. Voilà, c'est des choses qu'il faut reprendre, qu'il faut réactiver. Et ni sacraliser le livre, ni le... Voilà, il y a aussi parfois un anti-intellectualisme important dans les mouvements sociaux, dans les mouvements de contestation. Et voilà, il faut trouver le chemin entre les deux. Avoir l'écrit, il y a des gens qui disent « Ouais, l'écrit, c'est l'outil du pouvoir, etc. » Moi, je pense pas que ce soit si simple. Je pense que c'est un outil qui peut être retourné. Voilà, mais il doit pas être sacralisé, effectivement.
Merci à Mathieu et à Sophie du collectif Écran Total, rencontrés sur le Larzac lors des Résistantes en août 2023. Pour retrouver les livres des éditions La Lenteur, ce n'est pas sur Internet que ça se passe, bien sûr, mais par courrier ou téléphone. La Lenteur, le BATS, 81 140 Saint-Michel-de-Vax, et le téléphone c'est le 09 61 66 26 55, 09 61 66 26 55. Pour la musique, merci à Eric Toulis pour sa lucarne à blaireau, et merci à Stav pour sa reprise de Michel Berger, Les uns contre les autres. À suivre.